Et merde, je vous dis tout. La marque Adam et Ève, sensuelle et amusante, est mon sponsor du moment. Et je vais paraître kitsch parce que j'ai un mec et j'ai envie de fêter la Saint-Valentin. En fait, je vois un peu ça comme l'occasion de se la jouer romantique, dentelle avec des fleurs, lingerie, me faire jouir. Adam et Ève m'a offert le parfait combo pour ça. Une robe ouverte avec longue fente au niveau des jambes, en lingerie noire transparente, idéal pour se sentir désiré, avec un vibromasseur parfait pour les couples. À stimulation interne et externe, peut être contrôlé dans le monde entier avec l'application WeConnect. Tu peux en profiter toi aussi grâce à mon code promo VALCOLETTE, comme Valentin et Colette, en très diminué, VALCOLETTE. Ça te donne 15€ de réduction des 60€ d'achat sur tout le site jusqu'au 14 février. Je glisse les liens dans la description des derniers épisodes de ce podcast. A tout de suite, bisous. Salut.
Salut.
Salut, c'est Colette du podcast Colette se confesse. Et aujourd'hui, je suis avec Élodie. Comment tu vas, Élodie?
Comment ça va, toi?
Bah, moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler de sexualité et de nature thérapie, nature sexothérapie. Comment tu vas appeler ça?
Land art thérapie.
De land art.
Il y a une partie création sur le territoire. Et oui, nature thérapie, c'est joli aussi, hein.
Eh bien, très bien, super. J'espère que vous êtes prêts, parce qu'on va prendre le temps aujourd'hui de se connecter à soi, de se connecter à la nature. Donc salut les cocos, salut à tous, c'est Colette du podcast Colette se confesse, le média qui va enrichir ton imaginaire érotique grâce à deux formats. Les histoires immersives olé olé, grâce auxquelles chacun et chacune peuvent plonger à la découverte de ses envies, de ses désirs et de ses limites en toute sécurité. Et les confessions, comme ce qu'on fait aujourd'hui avec Élodie, où j'échange avec mes invités autour d'une anecdote intime, amusante, parfois excitante, parfois triste. Parfois envoûtante, peut-être parfois mystique aujourd'hui, t'en penses quoi Élodie?
Peut-être, ça va dépendre.
Toutes sont terriblement sincères. Alors, par où j'ai envie qu'on aille pour commencer cette conversation sur... Parce que tu m'as dit pas mal de choses, alors tu m'as dit pas mal de choses, en même temps il y a beaucoup de choses qu'on ne s'est pas dit Élodie, mais tu as semé quelques petites graines en moi avant cette interview, parce que tu m'as parlé de Celtes, tu m'as parlé de nature, tu m'as parlé d'Auvergne, tout ça, ça m'inspire quoi? Ça m'inspire du vert, ça m'inspire des j'allais dire storm, c'est, je le pense en anglais, n'importe quoi, comment on dit,
des tempêtes.
Des tempêtes, merci.
Ah oui.
Ça, voilà. ça m'inspire de l'humidité. Mm-hmm. Et je trouve que ce mot est très adéquat, vu
c'est
qu'on
chouette.
Parle de nature et de sexualité. voilà. À ton avis, pourquoi ça m'inspire tout ça?
L'humus, la forêt, la mousse, le vert, les racines. Storm, peut-être parce qu'il y a le côté... ça peut bouger aussi, c'est pas la nature, c'est pas toujours tout calme, tout mignon. Et c'est important, et l'orgasme, c'est bien une tempête en soi aussi.
Ouh, très beau. Donc, comment t'es arrivée, Élodie, à... Quel a été ton... Parce que c'est pas anodin, je trouve, comme petit combat personnel, d'arriver à... De se dire que tu veux animer la nature et la sexualité et d'en faire ton métier. Est-ce que tu peux me raconter brièvement comment t'en es arrivée à cette conjoncture entre ces deux... Si conjoncture est le bon mot, j'ai un doute, mais à relier en tout cas ces deux univers.
Le lien, c'est bien comme mot. D'ailleurs, je suis prof de yoga aussi à côté. Et le yoga, c'est aussi cette manière d'être en lien avec soi, avec l'écoute de son corps. La nature, moi, ça a toujours été très présent en moi, mais à un moment donné, j'ai ressenti des choses très profondes, des orgasmes avec la nature, juste en me connectant. Et je me suis dit, s'il y a des personnes à qui je n'arrive pas à expliquer, qui n'arrivent pas à verbaliser, et qui cherchent un peu cet axe-là en eux, pourquoi je les emmènerais pas dans la nature et peut-être les essayer de les guider vers ça. Alors, on fait pas de choses sexuelles en pleine nature, c'est pas le truc. C'est vraiment de se connecter à
dommage.
Soi en prenant les sens.
C'est dommage, je le dis.
Ah bah ça après.
Parce que moi, le sexe en nature, je connais bien. C'était vraiment cool.
Ah, c'est sympa aussi. Hein.
Parle-t-elle dans sa barbe?
On n'a pas entendu. On n'a pas entendu.
Je vois que tu portes une pierre. Je crois que j'ai la même pierre dans ma chambre.
C'est quoi alors?
Justement, je ne me souviens plus du nom.
C'est la labradorite.
Oh, mais c'est exactement ça. Ok, d'accord. Et j'ai offert il n'y a pas longtemps un bracelet de labradorite à quelqu'un également.
C'est la protection, vraiment, c'est la pierre des thérapeutes. En fait, et ben, tu vois, par rapport à ce qu'on disait là, de la sexualité dans la nature et du parallèle avec la personne que je vais accompagner dans la nature, il y a vraiment cette limite à mettre entre ce qu'on prend, nous...
Je peux voir, oui.
Ce qu'on prend en thérapie comme quelque chose qui va nous nourrir et qu'on va entendre pour pouvoir aider l'autre, et sur les choses sur lesquelles on doit mettre la limite de ce qui ne nous appartient pas, aussi bien comme souffrance, comme jouissance, comme joie, comme tout. Et donc la labradorite, c'est pouvoir avoir conscience qu'il y a des limites à mettre. C'est la pierre pour se protéger, pour capter
belle, hein,
la lumière aussi.
Je la montre à l'image pour ceux qui nous regardent sur YouTube.
Avec plaisir. Elle vient de brosser Liande.
Ah. Alors oui, j'ai bien offert un bracelet de labradorite à quelqu'un il n'y a pas longtemps, mais ce n'est pas cette pierre-là que j'ai dans ma chambre.
Ah.
Mais si tu t'y connais en pierre, je te la montrerai bien, parce que c'est un cadeau qu'un ex m'avait offert il y a longtemps, qui est... bref, géologue, donc du coup les cailloux, il les connaissait un petit rayon. Et moi, je m'appuyais un peu trop sur son savoir pour à chaque fois lui demander le nom de la pierre et pour l'oublier aussitôt et pour avoir le plaisir de lui redemander le nom de la pierre. Du coup, si je peux te la montrer après pour que tu me peut-être que cette fois-ci je peux la noter.
Oui, après c'est pas grave, le nom de la pierre, c'est ce qu'elle t'apporte qui est important. Si t'as envie de la mettre à l'est, à l'ouest, si tu sens qu'il faut que tu la regardes, que t'ailles la charger à la lune, au soleil, il y a une vie avec une pierre.
Je suis pas sûre que ce soit une pierre précieuse qui m'a offert. Bon, je sais pas en fait, je vais te montrer, tu me diras.
Mm-hmm.
Mais en tout cas, c'est une pierre que j'aime beaucoup parce qu'il y a de l'attachement, il y a de l'affectif, il y a une
donc
petite histoire derrière.
Donc elle est précieuse.
Derrière. Elle est précieuse à mes yeux.
C'est le plus important.
Et elle est très jolie. Et c'est vrai qu'il s'était donné un peu de mal pour la choper, celle-ci. Donc voilà, c'est un de mes derniers petits souvenirs de lui.
Ah, oh, c'est mignon.
Oui.
Le minéral, c'est un beau lien, le minéral. Parce qu'en fait, dans les traditions amérindiennes, on dit que les pierres sont nos grands-mères.
Ah.
Et donc, elles portent tous les secrets d'avant. En fait, les pierres sont là depuis des millénaires, comme certaines plantes et comme la mousse, qui est notre humidité de forêt. Et donc, voilà, il y a tout ça à aller chercher, à aller ressentir. La mousse, on peut même la goûter, tu vois, pour se raccrocher aux racines, pour avoir dans la bouche ce goût de forêt. Alors, le minéral, je ne dis pas de le goûter, mais juste organiquement, le sentir, le froid, le chaud d'une pierre, c'est hyper intéressant.
Est-ce qu'il y a les pierres dans le celtique?
Ouais, toutes les traditions celtiques.
Dans les traditions celtiques.
Utilisent des pierres, se connectent au dolmen, à tout ce qui va être minéral, en fait, qui va être sur le terrain. Donc, soit on va bouger des pierres, soit on va aller se connecter à une pierre parce qu'elle est là et qu'on sait qu'il y a une signification, il y a une orientation à cette pierre et on va s'y référer.
Quel est ton attachement aux traditions celtes? Je veux bien en savoir plus là-dessus. Parce que tu l'as quand même mentionné et un peu de sortie de nulle part, mais je me dis tiens, c'est pas anodin. C'est qu'elle a envie d'en parler, mais je veux rien dire avant l'épisode pour voir comment ça vient pendant l'échange, et maintenant je le sens bien.
D'accord, mais pas de souci. En fait, je suis auvergnate, et donc l'Auvergne, c'est une terre celte avec tout le massif d'Armorique. Et ce qui est marrant, c'est que je suis souvent en Bretagne et que maintenant je suis partie sur la côte atlantique. Donc je suis un peu le massif d'Armorique, il doit y avoir une raison à ça. Mais les traditions celtes, pour moi, c'est une manière de rythmer l'année, de se connecter à plein de choses. Par exemple, là, on est dans la période d'Ostara. Donc c'est juste avant Pâques, mais c'est toute la philosophie qu'on a à Pâques avec l'aspect païen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette influence christianique et ce côté, le bien, le mal, tout ça. Mais vraiment, on travaille sur la nature, se connecter aux énergies. Par exemple, là, c'est manger des œufs, du fromage de brebis, mais manger plus léger. Penser à ce qui est fécond en nous, à ce qu'on veut mettre en place comme projet. Donc, Ostara, on a des rites à faire. On a des œufs à planter dans la terre avec des souhaits. Donc depuis toute petite, je trouve ça super poétique. Et à chaque fois qu'il y a une fête celte, j'ai plaisir à la fêter, à la ritualiser. Et quand j'accompagne des personnes, par exemple les jeunes filles dont les règles arrivent, les hommes qui sont en train de changer, de muer, d'aller vers une sexualité, des personnes transidentitaires qui sont en quête de quelque chose, on va chercher dans les symboles celtes, dans la culture, dans les significations, dans ce qui va nous parler, ce qui va nous permettre de ritualiser, de mettre en place, d'avoir un axe et une référence. Moi, c'est vraiment ça.
Les gens qui viennent te voir, ils viennent pour cet aspect-là également, c'est qu'aussi, eux, ils ont une attache émotionnelle à des traditions celtes. Il y a un lien de coalition.
Alors, il y a peu de gens qui connaissent les traditions celtes. C'est beaucoup les gens qui sont connectés à tout ce qui est médiéval, tout ça. Mais ensuite, il y a des personnes qui vont venir vers moi et avec qui on va découvrir ensemble ce que ça peut leur apporter. D'accord. S'il y a une symbolique, le sorbier, le saule, un arbre qui va leur parler. Et on va aller chercher... en analysant ce qui se passe avec ça.
Et donc toi, c'est un savoir que tu transmets.
J'essaye.
Lors de tes suivis, que tu essayes de transmettre. Très bien, bah c'est chouette. On voyage alors avec toi pendant les séances. Trop bien. C'est rigolo parce que moi, je fais des accompagnements aussi qui s'appellent Better Call Coco. Mm-hmm. Et tout se fait par audio. Mais c'est vrai que j'ai une approche aussi très voyage initiatique à travers ce que je fais. Alors, pas du tout à travers les traditions celtes. J'y connais rien, mais écoute, un de ces quatre, si tu veux me faire découvrir un peu avec plaisir. Carrément. Moi, j'adore les histoires. Donc,
je sais.
Donc, bah oui. Donc, qu'on me raconte une belle histoire pour me faire évoluer en tant que personne, j'adore. Et c'est aussi, du coup, quelque chose que j'essaie de transmettre à travers mes accompagnements. Donc je te rejoins là-dessus. C'est très chouette. Quelle est ton histoire préférée que tu aimes transmettre ? Est-ce que tu en as une en particulier ?
Ah, y en a plein, mais notamment sur la nature et comment on accompagne les gens avec la nature. C'est le brame du cerf.
Ah.
Parce que bon, c'est pas la période là, c'est plus fin août, début septembre.
Ce qu'on notait assez érotique ça, non ?
Oui, je suis contente que je le dise parce qu'il y a peu de gens qui le reconnaissent. C'est comme le cri des grenouilles au printemps quand elles commencent à s'exciter. Il y a plein de personnes qui finalement m'avouent que ça leur fait quelque chose et heureusement. Parce que si la nature envoie des énergies sexuelles qu'on ne reçoit pas, entre humains, ça va être dur aussi quoi. En fait, par exemple une rose c'est quoi ?
Le visuel de la rose, tu veux dire ?
Ouais, qu'est-ce qu'il y a au milieu de la rose ?
Pour moi, une rose, ça ressemble à l'antre d'un vagin, un clito.
Ouais, c'est ça. Et je ne sais plus qui disait ça. C'est Ronsard. C'est un sexe ouvert, une rose. Parce que le pistil est tout à fait offert.
Tout à fait. Oui, tout à fait.
Et elle émane ce doux parfum qu'on pense si délicat. Ça n'est que de l'hormone sexuelle qu'elle émane.
Oui.
Donc, à un moment donné... Si on n'a pas envie de le voir, c'est là quand même. Et donc, le brame du cerf, c'est un cri
puissant. T'as quand même envie d'y foutre ton nez, quoi.
Comme ça. Ouais, voilà, on a quand même envie d'y foutre notre nez, d'aller la voir, de la ramener à son amoureux, son amoureuse. Il y a un lien avec la rose, quoi. Et c'est quand même un sexe ouvert.
Quand est-ce que t'as découvert, du coup, le brame du cerf ? Ça, c'est arrivé à quel âge ?
Ouah, j'étais petite. Je devais avoir 10 ans. En fait, parce que le brame du cerf, c'est quelque chose qui est présent chez nous. Moi, la forêt de Troncé, notamment, qui est une des plus grosses forêts à cerf et à chêne centenaire en Auvergne, qu'on essaye de préserver comme on peut, mais qui est ouverte aux visites pour les scolaires. Et j'ai découvert ça, cette émotion du brame. Et après, j'ai voulu, à chaque fois qu'on m'emmène, et la famille a toujours été OK pour m'emmener dans la nature, donc c'est chouette.
S'est-il passé ? Quand tu l'as, c'est parce que quelque chose t'a marqué la première fois que tu l'as entendu, j'ai l'impression.
Ouais.
Est-ce que tu arrives à te souvenir ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ou quelles pensées ont traversé ton esprit à ce moment-là ?
C'était une vibration plutôt, c'est quelque chose de très puissant dans le bas-ventre, un peu comme quand on entend du djembé, des basses, des choses très... Oui, très... j'y connais rien en son, mais les basses, quoi... Quelque chose qui va traverser le corps, qui donne des frissons. À 10 ans, il y a à la fois cet effroi et cette fascination de se dire « Mais c'est quoi ce truc ? Ça m'envahit. » Les premiers ressentis sexuels. Enfin. Et du coup, à chaque fois que je l'entends, j'ai cette sensation. Et ça envahit le corps. Et je me dis ensuite, quand un homme n'arrive plus, ne ressent plus rien, n'arrive pas à se connecter. Si on va au milieu de la forêt, qu'on va mettre nos pieds dans la mousse, ouvrir le plexus, écouter les oiseaux, observer les traces du cerf, suivre, sentir, eh ben, il va se passer quelque chose. Et effectivement, j'ai voulu faire un essai. Donc, j'ai demandé à 3 personnes qui me consultaient déjà depuis longtemps, avec qui il y avait un lien de confiance, s'ils étaient assez fous pour tenter ça avec moi.
Ah.
Et ça a été une étape dans ce que je considérais être thérapeute, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, dans le bureau, j'ai une personne sur 10 séances, 20 séances, ça n'avance pas, ça... on parle, on tourne en rond, on mentalise. Bon, c'est une partie de la thérapie, il ne faut pas la nier, on a de la psycho derrière, on a de l'analyse. Mais à un moment, il faut casser le schéma et se dire « Ok, j'ai juste envie de l'emmener dans la nature et de le faire crier ». Et c'est ce que j'ai fait lors de cet événement, et j'ai senti que c'était ça mon truc. C'est que moi, depuis toute petite, à un moment donné, il faut que je mette les pieds nus, que j'ouvre mon plexus, que je connecte mon bassin, que j'entende ce qui se passe dans la nature, que je me fasse frotter par une herbe, que voilà, qu'il y ait quelque chose qui se passe de l'ordre du ressenti, mais du non maîtrisable. Et le brame du cerf, ça emporte les personnes. Et du coup, on fait un cercle, bâton de parole. Bon, là, on était sur le masculin pur, mais...
Attends, j'aimerais bien qu'on reprenne un peu cette histoire depuis le début.
Oui.
Parce que là, du coup, c'est un petit peu décousu pour moi. Si tu veux bien, en fait, reprendre dès le début de l'histoire. Donc, du coup, ces personnes-là, déjà, comment tu les as choisies? Pourquoi tu as choisi ces personnes-là? Pourquoi des hommes et pas des femmes? Et ensuite, quelles ont été toutes les étapes de processus, en fait? Quelle a été toute ta réflexion à travers l'accompagnement?
D'accord.
Et comment tu les as amenées dans ton univers?
Alors, c'est des personnes... Moi, ça fait 4 ans que je suis thérapeute en sexologie, en sexothérapie, sur l'aspect couple, tout ça. Et du coup, ces personnes sont là depuis un petit moment dans le suivi. Alors, ils ont un lien commun, c'est qu'ils avaient 2 ou 3 pathologies en commun. C'est-à-dire des hommes plutôt, je dirais, introvertis. Et c'est là où l'intérêt était là, c'était d'aller vers une extraversion. Donc là, on était avec des hommes parce que le brame du cerf, pour moi, évoque le masculin. Mais pourquoi pas évoquer la part masculine d'une femme? Enfin, c'est un peu idiot de faire la dichotomie entre masculin et féminin, mais c'est un repère qu'on a, c'est imagé. Mais en tout cas, c'est une énergie. Et là, ces hommes-là étaient dans une volonté d'aller accentuer leur virilité, la ressentir, peut-être avoir des érections un peu plus longues, un peu plus dures, quelque chose qui va plus les satisfaire à ce niveau-là, eux, dans leur construction identitaire de leur ego à travers ça, et à travers la représentation qu'ils en ont. Moi, mon but dans la thérapie, c'est d'aller leur permettre de déconstruire leur représentation pour ne pas en être enfermés, pour pouvoir être libres après. Donc, je me suis dit, s'ils me font confiance, je vais leur demander si déjà d'aller hors cabinet, ça peut les intéresser, si la nature les intéresse, si on peut aller chercher des symboliques.
Ils étaient amis, ils se connaissent ?
Pas du tout. Pour l'instant, effectivement, c'était des personnes qui ne se connaissaient pas du tout parce que je ne travaille pas encore trop en groupe. Mais je leur ai demandé s'ils étaient OK qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas, où tout restera anonyme et tout ça. Et ça n'a pas été difficile pour eux. C'était juste qu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Et c'est là aussi le but, c'est d'aller vers quelque chose vers quoi on ne sait pas... Vers quoi on ne sait pas où ça va nous mener, mais dont on sait qu'il y a de la bienveillance, qu'il y a derrière un accompagnement, une présence, une ouverture à l'émotionnel. Donc, je les ai choisis pour cette confiance qu'ils avaient en moi. Ensuite, j'ai organisé une sortie avec un guide nature, parce que repérer les endroits de brame du cerf, c'est une profession. Ne pas se perdre dans la nature, c'est aussi une profession. Il a fallu que j'explique au guide nature, ça a été super drôle de contacter l'office de tourisme, tout ça, d'expliquer. Il me prenait pour une folle, mais
tu
en même
disais
temps...
Quoi
je dis, bah écoutez, j'aimerais emmener 3 personnes dans la nature, mais découvrir le brame du cerf, pouvoir suivre les traces du cerf, mais à un moment donné, je vais vous demander de vous écarter parce qu'on va, avec ces personnes-là, faire des exercices de Qigong, des respirations, des cris, on va travailler sur l'émotionnel, ils vont me parler, est-ce que c'est possible? Et il m'a dit, bah, je ne sais pas trop, moi je peux vous guider, mais je ne vois pas ce que vous voulez faire après, c'est un rituel, c'est quoi? Je dis, bah, non, venez. Donc il m'a montré déjà le lieu, on a repéré ensemble, j'ai pu lui expliquer, c'est quelqu'un de très jeune, donc il n'a pas été fermé. Il nous a fait confiance et on a été très bien guidés. Et ça a été très chouette, en fait. Il y a eu une osmose dans le groupe, quelque chose où on était un peu comme des enfants quand on va... parce que à la tombée de la nuit, on y est encore, en fait. On est parti vers 15h et à la tombée de la nuit, on était encore là-bas.
Donc on part vers 15h,
ouais.
On marche combien de temps dans la forêt ?
Une heure, à peu près. Parce que ben, y a eu un chemin qu'il fallait traverser. Et là, on a croisé un dessert, un jeune.
Waouh !
Avec les 6 bois tout frais. Donc ça, c'est génial parce qu'on a pu identifier que la communauté était encore là. Le guide était très content qu'on le croise. Donc un peu,
bien joué, le guide.
Ouais, il est très, très bon. Il y a ce côté enfant. On se cache pour pas que le cerf nous repère. On est habillé un peu en noir et vert. Enfin, j'ai pas encore osé passer à l'étape. Je l'ai fait maquiller avec de la boue, mais la prochaine étape, ce sera ça, quoi. C'est vraiment d'aller plus loin. Après, une fois qu'on a fait un premier pas, on peut se lâcher beaucoup plus. Et il y avait ce côté-là un peu... c'est pas de la traque ni de la chasse, parce qu'on lui on
côté
lui veut
jeu.
Rien, mais il y a un jeu, voilà. Mmh. Donc c'est la connexion à l'enfant intérieur, les racines, le lâchage, ne pas savoir où on va, qu'on avance dans la forêt, on repère les troncs d'arbres sur lesquels il y a des poils, on sent au sol les traces d'urine de cerf, les traces d'hormones de cerf. On a un guide qui nous permet vraiment de les repérer. Bon, c'est un peu gênant au départ, mais en fait, après, on est pris au jeu comme des enfants qui doivent trouver le cerf, par où il est passé, pourquoi, tiens, tel arbre a des écorces plus tendres, il fait ce trajet-là parce que la femelle est passée. Enfin, il y a tout un truc, en fait, et ça fait amener à réfléchir sur soi, comment on cherche notre partenaire sexuel, qu'est-ce qui va nous accrocher, qu'est-ce qui va nous faire passer par telle rue ou tel autre endroit. C'est ça, c'est le cheminement. C'est très jungien, en fait.
Tu peux développer ?
Alors, Jung, l'individuation, c'est le voyage, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est passer par des chemins. C'est se poser la question, pourquoi aujourd'hui je ne passerai pas à gauche au lieu à droite ou, et c'est d'analyser, pas à pas, la symbolique, les couleurs, les sensations qui viennent à nous. Ce que j'aime chez Jung, c'est ça, c'est qu'on part de soi, de ce qu'on ressent, et après, on en fait notre tableau. Et avec ça, on avance. Et c'est pour ça que je suis très attachée à cette théorie. Je fais partie du cercle jungien. Et il se passe plein de choses quand on analyse les rêves. Donc, un rêve, ça peut se faire à plusieurs, dans le sens où on va se confronter à des archétypes ensemble, dans un lieu comme la forêt. Et derrière, on va en parler. Ça nous implique beaucoup plus en tant que thérapeute, mais c'est un autre rapport aussi.
Donc, l'expérience que tu proposes, tu vois ça comme expérimenter un rêve à plusieurs, que vous co-construisez ensemble.
Mm-hmm, c'est un peu ça.
Ok. Et donc, comment ça se met en place ensuite ? Donc, j'ai pas envie de dire la traque, c'est pas le bon mot, mais bon, il y a toute la partie observation, marche, jusqu'au spot.
Ouais.
Et ensuite ?
Ensuite, on se met en cercle. On s'assoit au sol, dans la mousse, toute humide, alors qu'il fait un peu froid quand même, tu vois. Mais il y a vraiment
j'aime beaucoup
ce côté...
que l'humidité soit ce fil conducteur.
Ouais, c'est bien.
On l'a bien choisi.
Ah ouais, ça fait du bien à tout le monde. Un petit peu de mousse toute humide qui nous accueille tranquillement. Alors ça aussi, c'est un truc, quoi, parce qu'ils ne sont pas obligés non plus d'avoir les fesses mouillées, d'avoir envie d'être au sol. Mais c'est venu, donc super. On fait un petit temps méditatif, donc là, je les invitais à entendre. Alors, on a eu du mal à avoir un brame, mais on l'a eu à la fin. Ça, l'idéal, ça aurait été qu'au moment de la méditation, le cerf brame. Mais bon, il n'avait pas compris, il n'avait pas envie, je crois. Mais il a bramé à la fin, comme pour nous faire un au revoir, une ponctuation. C'était très puissant. C'était un moment où on était en train de se dire, bon, voilà, c'est fini, on a passé un bon moment. Et là, bon, je ne vais pas le faire, alors je ne vais pas vous limiter.
Mais c'était une très belle tentative. Ah, tu m'as surprise, je ne m'attendais pas. Ah, d'accord, ok.
Tout le monde va m'accrocher.
Et du coup, tu m'as dit que donc, quand vous venez, vous asseyez, là, après vous faites un peu de Qigong.
Ouais.
Après, il y a de la discussion ou non ? Comment ça marche, en fait ?
Oui, c'est ça, une petite méditation, donc okay. Sur soi.
Donc, d'abord Qigong, ensuite méditation.
Voilà.
Okay.
Qigong, alors, c'est vraiment travailler donc, l'assise au sol, ce qu'on ressent dans les pieds, dans le bassin. Parce qu'en sexothérapie, on apprend beaucoup à travailler l'axe épaule-bassin. Et donc, c'est vraiment ce que j'essaye de faire travailler, notamment chez les hommes, parce que l'aisance du bassin n'est pas toujours la même que chez la femme. Et du coup, c'est ce qui va souvent bloquer au niveau de tout ce qui passe, hein, au niveau vasculaire dans le bassin. Donc là, c'était vraiment aller travailler le bassin, des cercles, des ronds, la respiration entre ciel et terre, l'ouverture du plexus. Et voilà, d'être en aisance comme ça dans son corps, avec l'humidité, avec le froid, le vent, et ben c'est vraiment... on est obligé d'être dedans. C'est pour ça que je les ai amenés jusque-là. Et puis ensuite, bâton de parole. Donc j'avais construit un bâton de parole, ça c'est facile à faire avec ce qu'on ramasse au sol. Voilà, des petites plumes, des choses. Et le bâton, ça symbolise, bah, c'est le phallus, le pouvoir, c'est quelque chose qu'on a dans la main, qui est stable, qui est dense. Celui qui a le bâton, il parle et on ne peut pas le couper. Et du coup, ça les coupe, eux, d'avoir ça dans la main et de se dire « Oh là là, c'est à moi ». Et du coup, c'est génial, quoi. Il se passe un truc à ce moment-là. On est obligé d'outrepasser. C'est un peu comme quand, on est devant un micro. On se dit, bon, alors, il faut que je dise quelque chose. Donc, j'ai peut-être quelque chose à dire. Et c'est intéressant.
C'est un peu mon bâton de parole à moi.
Ouais, c'est ton bâton de parole. C'est ça.
C'est vrai que je remarque que lorsque mes invités sont derrière le micro, ils terminent toujours par me dire à chaque fois « Ah, je me suis livrée sur tel ou tel sujet, je pensais pas du tout, mais c'est génial, c'est trop bien que j'ai parlé de ça, j'aurais pas du tout cru que j'allais aborder ce sujet-là, mais c'est trop chouette qu'on soit parti par là. » Mais c'est marrant parce que du coup, oui, en effet, le micro marche un peu comme un bâton de parole, en mode bah, « Tant que moi je ne dis rien et que tu as un micro devant toi, tu es obligé de continuer à... » Enfin, tu te sens obligé en tout cas. Après, tu n'es pas vraiment obligé, tu pourrais t'arrêter et me laisser en plan. Mais voilà.
C'est un révélateur.
Ce serait très révélateur. Oui, c'est vrai. J'espère pas. J'espère garder des invités très coopératifs et très amicaux.
Pas quand même, tu sais les choisir aussi.
Merci. Ok, trop chouette. Et après le bâton de parole?
Après, c'est fini.
Après, c'est fini.
Je les laisse
et
avec...
Et après, il y a le brame, y a le brame du cerf.
Il y a l'apéro aussi.
Ah bah quand même.
Quand même. Non, parce qu'il y a des gens qui campent, en fait, dans la forêt de Troncé, de temps en temps, c'est pas tout le temps, qui sont là pendant toute la période de brame du cerf et qui prennent des photos. Photos animalières. Mmh. Alors eux, ils ont carrément des capteurs et tout, c'est génial en fait, c'est de la traque encore plus. Et là, c'était un couple en l'occurrence, et on revient avec le guide, et là, il y a un van avec une table et l'apéro. Et le guide nous dit, bon ben voilà, ça fait aussi partie du truc, il y a des gens qui sont là. Et du coup, on s'est retrouvés à faire un apéro, c'était très cool, ça a détendu aussi tout le monde. Mais en général, moi, après un cours de yoga ou quoi, j'offre un thé, une petite collation, parce que l'émotionnel, comme ça, ça donne faim.
Complètement. Tu verras que le podcast aussi.
Ah voilà.
Ouais. Après l'échange, à chaque fois, on a faim et on a soif et on est fatigué. Ouais. je me posais une question vis-à-vis des trois personnes, du coup, des trois hommes qui t'ont accompagné. Ça leur a fait quoi de rencontrer d'autres hommes, plus ou moins dans leur cas, enfin avec les mêmes patterns, si j'ai bien compris. Enfin, ils avaient des similarités dans,
oui, tout à fait.
Dans les choses qu'ils venaient travailler. Ça leur a fait quoi de se rencontrer entre eux?
Bah, ils se sont dit, je suis pas seule. En plus, ils n'avaient pas tous le même âge, donc ça leur a permis d'échanger. En France, souvent, les communautés comme ça où on échange, on s'entraide, c'est souvent les femmes sur l'intime. Déjà à la maternité, enfin des choses comme ça, il y a une tradition ici un peu plus facile chez la femme, les cercles de femmes, les groupes de parole, et donc chez l'homme c'est plus compliqué. Et c'est pour ça qu'amener un contexte comme la nature ou quelque chose permet de relier. Mais c'est vrai qu'ils étaient mal à l'aise au début, c'est sûr. Mais c'était le but aussi.
Quel a été l'élément déclencheur pour les mettre à l'aise?
Le cri, le fait de respirer, travailler son bassin, pousser des cris, rire, ça fait du bien et du coup après la barrière est tombée et ça va mieux.
C'est des choses que tu as vues lors de tes études de sexothérapie, ce genre de séance en nature, en extérieur?
Pas du tout. J'ai vu ça nulle part, alors ça doit bien exister. Après, ce que j'ai vu, c'est en sexothérapie, on travaille sur les principes taoïstes de Mantak Shiya. Donc, un exercice taoïste, notamment, de bascule du bassin qui se fait dans la nature, avec les pieds ancrés au sol, et où on pousse des cris, où on fait travailler à la personne son périnée. Donc, ça se fait naturellement dans les traditions taoïstes, mais parce qu'aussi, c'est pas la même manière de vivre son corps. Mais non, on nous dit pas emmener des gens dans la forêt, allez-y. Et la prochaine étape, ça va être la suite avec les femmes, mais même avec les hommes du coup maintenant, parce que j'essaye de débinariser. J'ai été élevée dans un milieu binaire et je me rends compte que c'est complètement sclérosant. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des sexologues, parce qu'on binarise trop. Mais en tout cas, c'est d'emmener les gens maintenant dans le bassin d'Arcachon, travailler le bassin dans le bassin, dans l'eau.
Ah,
ça va être la suite en fait.
Trop bien, trop chouette. Et c'est quel cri de quel animal, du coup?
Alors là, je sais pas. Je dirais la sirène, moi. Mais ouh.
Bon, bah, j'arrive alors. C'est moi qui vais faire le cri de la sirène.
Super.
Quelles sont les différences, si tu veux bien éclaircir nos chères auditrices et chers auditeurs, ou nos chères auditorices? Tu sais que, justement, parlant de binarité, c'est marrant que tu parles de ça, parce que j'ai un énorme problème avec... avec l'écriture inclusive ou le féminin et le masculin.
Ouais.
Parce qu'en fait, par exemple, tu vois, quand je dis auditrice et auditeur ou auditeur et auditrice, bah, je continue quand même à mettre un genre en priorité, enfin un sexe plutôt, une identité sexuelle en priorité, et ça me gêne énormément. Et en même temps, auditrice, personne ne comprend ce que je dis, et le fait, en fait, ça me gêne beaucoup le fait de séparer, et j'aimerais bien qu'on commence à créer des mots.
Ouais.
Pour juste qui parle de tout le monde. Donc je pourrais dire ma communauté, mais bon, c'est un peu prétentieux aussi. Donc voilà, il n'y a pas de bon...
Non, il n'y a pas de bon... En fait, c'est que le langage a sa limite à ce niveau-là pour l'instant. Je crois qu'il n'y a que le finnois qui est une langue non-genrée. Mais sinon, toutes les langues quasiment, à un moment donné, font la distinction. Et c'est là où il faut travailler un nouveau lexique, une nouvelle manière de penser, parce que si dans le langage, ce n'est pas ancré... Forcément, psychologiquement, comme on sait que tout est langage, Lacan, on est forcément influencé à un moment.
Est-ce que le celte est binaire?
Oui, très, trop. Et j'ai un problème justement avec ça. Mais il y a plein de divinités, Morgane notamment, elle est quand même femme guerrière, femme qui assume son côté masculin, son côté yang, sa force, qui ne va pas être dans la représentation féminine qu'on a habituellement.
En tout cas, pas en Occident, pas dans le...
Ouais.
Je pense à l'hindouisme également, qui a les kshatriyas, qui sont des guerriers et des guerrières. Et donc Shakti, qui est la femme de Shiva, qui fait partie du tantra. Bon là, on part un peu loin, je ne sais pas si on va raconter ça dans cet épisode. Mais donc Shakti, qui est une guerrière. Et donc pareil, ça me fait penser à Morgane. Ok, bah chouette, très bien. Bon, bah, je vois qu'on aime toutes les deux les histoires, on est bien d'accord.
Voilà, on est parti. C'est clair.
Ça a perdu mon fil du... Ah oui, voilà. Je voulais te demander, du coup, quelles sont les différences entre, si tu veux bien, du coup, éclaircir... Voilà, j'en reviens à cette question. Ma communauté.
Voilà, la communauté.
Si tu veux bien nous éclaircir sur la différence entre sexologue, sexothérapeute, thérapeute de couple...
Intimologue.
Intimologue, et donc, voilà, nous introduire le terme d'intimologue. Si tu veux bien nous éclaircir un peu là-dessus. Notamment, bah, moi, la première, je voulais me renseigner à un moment donné pour moi, pour certaines études, celles qui pourraient me correspondre le mieux. Et en fait, il y en a où j'ai... Enfin, moi, j'ai cru comprendre que c'était un doctorat pour la plupart, mais finalement, depuis, j'ai rencontré d'autres personnes qui me disent « Ah bah non, pas du tout, moi, je fais un master et c'est très bien.
Ouais. »
Donc du coup, c'est un peu flou pour moi parce que... ouais.
C'est flou pour tout le monde, hein, en fait.
Okay. Le statut... Me voilà rassurée ou pas, je ne sais pas.
Non, mais je ne sais, okay, pas si ça rassure, mais en tout cas, le statut de sexologue en France n'est pas réglementé. Donc, en Europe non plus, pour l'instant. Le problème, c'est que quand on dit ologue, on a cette notion médicale derrière. Parce que dans notre culture, urologue, c'est le médecin de l'urologie.
Bah, donc, logie, on fait pareil. Ça vient de science.
Voilà.
Ouais.
Voilà. Logos, parler et science. Donc du coup, il y a tout cet aspect, on se dit que la personne a été formée en médecine. Mais moi, si on vient me voir pour quelque chose d'organique, je ne serai pas compétente. Je vais renvoyer vers un sexologue médecin. Moi, ma partie, c'est la partie psychique. Donc là-dessus, c'est plutôt thérapeute. Mais si on dit thérapeute, on a l'impression que la personne n'est pas formée parce qu'il n'y a que des écoles différentes. Il y a, en sexologie, il y a 4-5 écoles différentes.
Ah, en sexologie ou en thérapie?
En thérapie. Alors, en thérapie, il y a des millions d'écoles différentes, des millions de types de thérapie.
D'accord.
Donc après, quand on se dit sexothérapeute, sexopositive thérapeute. C'est très difficile parce qu'on a l'impression de devoir appartenir à une école.
Alors, quand tu dis une école, est-ce que tu veux dire que ça appartient à un cercle de pensée, à un penseur, comme tu parlais de... Comme si on fait un miroir avec la psychanalyse.
Voilà, Lacan, les Freudiens.
Est-ce que c'est la même idée, une école, ça appartient à un mouvement de pensée?
Mais il y a un peu ça, il y a un peu dans l'esprit ça, parce que quand on cherche, on trouve des personnes qui sont affiliées à telle ou telle école. Et du coup, moi, mon idée, c'est de ne pas être affiliée à quoi que ce soit, et d'être dans quelque chose qui considère à la fois la partie psychique et à la fois le corps, mais plutôt dans son côté fonctionnel, respiratoire. Enfin, justement, pas fonctionnel. Si c'est fonctionnel, on va aller sur l'aspect médical. Mais c'est vraiment comment on vit notre corps, comment on vit, pas notre spiritualité, mais nos croyances, nos choses les plus profondes et les plus intimes, et comment on les analyse. Du coup, j'ai créé ce nom d'intimologue, parce que c'est la connexion à l'intimité, et c'est se spécialiser sur ce qui est intime pour la personne, et comment on l'amène à harmoniser cet intime.
Et du coup, c'est la science de l'intime.
C'est ça.
Donc, on reste dans la science.
J'espère. Après, une science, c'est un grand mot. Mais tant qu'on recherche, je me dis qu'on est dans la science, moi.
Donc, sexologie, c'est combien d'études?
Alors, sexologie...
Thérapie, psychothérapeute et sexothérapeute, quelles sont les différences?
Alors, donc psychothérapeute, c'est une personne qui a une licence de psycho, qui n'est pas encore donc psychologue, parce que sinon elle aurait le master. On peut aussi dire psychopraticien. Moi, personnellement, je suis en licence de psycho.
Et quand tu as le master, du coup, tu deviens quoi?
Le master de psycho?
Oui.
Psychologue.
Donc, tu es psychothérapeute quand tu as une licence?
Ouais.
Et tu es psychologue quand tu as le master?
Voilà.
Ouais. D'accord, ok.
Et donc, ça, c'est un complément. Mais en sexologie, par exemple, moi, j'ai fait le CERFPA. Donc, c'est une école privée où il y a des... il y a beaucoup de sophrologues, toutes les médecines douces, en fait. On fait des certificats en 3 ans avec des spécialités. Et donc, là, on sort avec un certificat. Donc, un certificat, on peut dire qu'on est sexopraticien ou sexothérapeute. Et sexologue, c'est réservé aux médecins. Sauf que, sur le papier, sexologue, tout le monde peut le mettre sur sa plaque. C'est juste dans les mœurs que ça va être moins accepté par le corps médical, parce que ça voudrait dire qu'on prend un peu la place d'un urologue ou quoi. Donc, pour l'instant...
Attends, pourquoi un sexologue prend la place d'un urologue? Je comprends pas.
Mais parce qu'en fait, pour avoir accès... au DU de sexologie, donc comme il est universitaire en 2 ans, mais accessible aux professionnels de santé, c'est considéré comme une spécialité après. Moi, je ne peux pas aller au DU sexologue, par exemple.
D'accord.
Parce que je ne suis pas professionnelle de santé reconnue par l'ARS.
Mais quand, pour être... Et pour être professionnelle de santé, c'est un doctorat?
C'est un master.
C'est un master.
Okay. En psycho ou un diplôme d'État. Comme okay. Kiné.
Oui, donc c'est bien ce qui. Oui, c'est pour ça que moi je pensais que c'était un doctorat. C'est parce que j'avais bien lu cette info-là qu'il fallait d'abord avoir le master, puis ensuite. Mais en fait, tu peux aussi. Donc il y a une autre alternative.
Ouais. Passer une certification. D'accord. Dans une école privée.
D'accord, ok. Et les études, quelles sont les différences? C'est en combien de temps?
Alors moi j'avais 3 ans et j'ai comparé avec les cours par exemple du DU, du CHU, enfin de l'université de Clermont-Ferrand. C'était les mêmes cours, sauf que c'était en 2 ans, destiné à des professionnels de santé, donc avec quelque chose de beaucoup plus, moins facile d'accès, si on n'a pas les codes à la base en psycho et tout ça. Et nous c'était en 3 ans.
D'accord.
Mais le contenu sensiblement est le même, c'est-à-dire que pour accompagner les gens en sexologie, il faut connaître le développement psychologique de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte. Mmh. Il faut connaître le développement psychologique pathologique, non pathologique, il faut connaître un peu sur le corps, la sexualité, la partie socio sur la sexualité, ethno, mais en fin de compte c'est que ça. Donc 3 ans de certification ou 2 ans de DU, selon le vécu qu'on a eu avant, selon l'intérêt, selon la culture perso, ça devrait être pareil. Moi, je dis que c'est surtout l'envie qui permet d'accompagner. Mais voilà, on est quand même avec toutes ces subtilités-là et ces guéguerres entre les médecins, les non-médecins.
Ok. Et thérapeute de couple?
Thérapeute de couple, c'est un petit peu comme sexothérapeute, c'est-à-dire qu'il y a plein d'écoles différentes. Et soit on fait une formation dans une école de 2 ans souvent, Souvent, c'est assez cher, hein, c'est comme en sexo. Mais il n'y a pas thérapeute de couple à l'université. Ce qu'il y a à l'université, ça va être conseiller conjugal. Mais là, il y a une partie juridique, il y a une partie plus reliée, par exemple, à des instituts catholiques, le tribunal, le planning familial qui forme les professionnels de santé ou les assistantes sociales en conseil conjugal. Mais moi, je n'ai pas voulu faire ça parce que justement, il y a cette partie juridique et administrative qui n'est pas ce qui m'intéresse, mais qui fait partie du métier. Il y a des gens qui font les deux, en fait.
D'accord, ok. Juste pour revenir sur le brame du cerf, du coup, tu trouves que ça a fonctionné, l'énergie sexuelle, chez ces hommes? Ils ont retrouvé l'énergie sexuelle grâce à ça?
Alors, il y en a un que ça a beaucoup lancé vers la reliance à la nature, pratiquer les exercices taoïstes. Ça l'a vraiment boosté à chaque jour sortir, mettre du froid sur son périnée, aller mettre les fesses dans la neige. Enfin, il est un peu plus âgé, donc il avait aussi beaucoup plus de folie et d'ouverture. Et les deux autres, il y en a un sur qui ça a permis d'oser plus dans sa vie en général, en fait. Ça a permis de ce côté, ah, j'ai passé un cap, on a fait un truc un peu fou, voilà. Et l'autre, ça a été plus long, mais il en parle de temps en temps. C'est des personnes que j'ai toujours en thérapie, en suivi, en fait.
Comment t'as fait, toi, pour... Toi, comment tu fais pour te connecter à ton énergie sexuelle?
Alors, moi, j'ai de la chance, elle est souvent présente.
Mais pourquoi la tienne est souvent présente et pas la leur?
Je dirais que c'est parce que j'ai cette capacité à écouter mes sens, à aller les chercher, à me poser pour les entendre, pour leur donner de l'espace, les ressentis, les émotions, les sens. Et je pense que comme l'énergie sexuelle, elle est un peu multiple, elle se fait avec tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous construit. Du coup, plus on va s'ouvrir à tout ça, notamment la gustation, le goût, la nourriture, les plaisirs, quels qu'ils soient, intellectuels, musicaux, et ben là, on va pouvoir la développer plus. Moi, c'est plus ça, c'est l'hédonisme, en fait.
Donc, si tu avais trois conseils à donner...
Trois conseils. Ah, ouais. Tu vois, t'es celte, toi aussi. La tripartition.
Ah ouais. Ça vient des celtes, ça?
Ça vient de tout. Dans toute culture, le 3, à un moment donné, ressort, l'empereur, tout ça. Non, c'est l'impératrice, le 3, par contre.
Tu sais ce que j'aime, moi? Attends, pourquoi 3 dans l'impératrice? Ça m'intéresse beaucoup.
Ça, c'est plus l'alchimie, le chamanisme. On dit que le 3, c'est les 3 piliers de l'ancrage de l'impératrice, et que le 4, c'est le quatrième pilier, l'empereur.
Oh.
Donc c'est cette répartition masculin-féminin.
Pourquoi 3 et 4?
Alors là, je ne sais plus. Ça va loin.
Ça m'intrigue.
Mais c'est à creuser.
Parce que l'impératrice, c'est une carte du tarot que j'aime énormément.
Ouais, elle est chouette.
Ouais. Je la tire tout le temps, en fait. Je pense que c'est un peu ma carte, voilà.
Mais je pense qu'il y a un côté prêtresse, transmettre...
Il y a la prêtresse. Alors pour le coup, je n'ai rien à voir avec la prêtresse, mais... dans le tarot.
Mais l'impératrice.
L'impératrice, ouais.
Ancrer un statut de femme qui soit là, qui soit présent, qui soit fort, qui accueille aussi. C'est chouette. Le triangle, tout ça.
Donc le 3, ok, très bien, intéressant. C'était parti sur quoi, du coup?
3 conseils.
Ah oui, pardon, t'avais 3 conseils à donner pour se reconnecter à son énergie sexuelle grâce à la nature.
Alors je dirais un peu comme les 3 diantan, les trois portes du corps en énergétique chinoise, c'est-à-dire le ventre, donc se connecter à son bassin, à son ancrage dans le sol, à son périnée.
Comment?
À son estomac aussi. En respirant, en mettant la main sur le ventre, en apportant de la chaleur à ce ventre, en apportant du froid, en apportant des sensations différentes. Ensuite, le plexus, l'ouvrir, écouter ses émotions, entendre son cœur battre. Et ensuite, le troisième œil, donc plutôt le haut de la tête, ouvrir ses pensées, ouvrir ses projets, ouvrir ses rêves, créer, écouter l'autre, aller chercher, avoir de la curiosité.
Voilà. Super. Et le troisième? La tête.
Troisième, c'est le chakra couronne, le Qu'est-ce que je disais? Donc,
t'as dit le ventre, la
le
tête.
Le ventre, le plexus.
Ah, le plexus, excuse-moi. J'ai pas entendu le plexus.
Plexus, ouais, pour l'ouverture du cœur, pour entendre les émotions dans le cœur, ouvrir son cœur.
Super.
Ouvrir ses épaules, aller vers l'avant. Voilà.
Et je vois que tu as apporté de la jolie déco sur ma table aujourd'hui.
Voilà, je t'ai fait un petit land art, donc vrai land art, parce que en arrivant, je suis allée dans le parc à côté, j'ai ramassé des petites choses en conscience et tout, et ensuite on crée avec ça. C'est ça le principe du land art, c'est-à-dire qu'on arrive quelque part, si c'est des détritus, c'est des détritus, si c'est des plumes, c'est des plumes. C'est vraiment qu'est-ce qu'il y a là et qu'est-ce que j'en fais et comment je l'harmonise. Et
c'est après, très harmonieux, installe. C'est très joli.
Merci. C'est le printemps, on a de la chance. On a des belles petites
fleurs. Tu m'as demandé, quand tu l'as installé, où était le nord?
Ouais.
Il y a une intention derrière ça?
Bah parce que Ostara et la pleine lune qui arrive là sur le mois d'avril, c'est la pleine lune qui est connectée nord-est. Donc la médecine, le nord, et l'est, c'est plus l'eau, la fluidité, l'instinct intérieur, aller chercher la profondeur de soi. Donc je cherchais cet axe-là, nord-est. Mais je sais jamais où il est, alors c'est pas évident. Il faut une boussole en fait.
Très bien, super. Je crois que sur les iPhones il y a des boussoles maintenant, mais bon, c'est pas très land art, mais
si ça marche, tant mieux.
Super. Bah écoute, j'ai des petites questions de fun de fin.
Ouais.
Si tu veux bien y répondre.
Avec plaisir.
Alors, est-ce que tu te souviens sur quelle musique tu as fait l'amour la dernière fois?
Oula. Non, je dis oula parce que en ce moment, c'est pas en musique. Mais la dernière musique, c'était...
Le Brame du Cerf.
Eh, c'est bien, hein. Ouais, j'ai pas testé sur le Brame du Cerf pour l'instant.
Ah, il reste encore des choses à découvrir.
Mais il y a des CD de Brame du Cerf, donc... Oh, oui, à découvrir. Mais c'est pas évident, hein, parce que comme c'est tout... Il y a pas de variation, quoi. Non, c'était Entretien avec un vampire.
Ah, sur la BO du film, c'était ouais. Sur le film. Ok, ouais. D'accord.
Ah, c'est beau.
très chouette. Quel est le livre de ta table de chevet actuellement?
Actuellement, Lexi, sur les transidentités, identités de genre, où justement elle parle du vocabulaire inclusif et comment on peut aller chercher le langage.
C'est un manifeste, c'est quoi?
Ouais, c'est un manifeste.
Ouais, ok. Ouais. Chouette, très bien.
Ouais, elle est chouette.
Quel est le dernier souvenir que tu as en tête qui t'a excité?
Il y en a plein. je dirais le yaourt.
Ah là, je veux bien que tu développes.
Le dernier yaourt que j'ai mangé, je me suis connectée à mes sensations. Et comme c'était la framboise, alors la framboise contient du formiate d'éthyl, qui est une des molécules que l'on trouve dans la Voie lactée. Donc, bon, mon compagnon m'a séduite sur cette phrase. Et du coup, à chaque fois que je suis dans cette sensation de framboise, je sens la Voie lactée dans mon corps. Il y a quelque chose de très puissant, de très... Et puis à la fois, c'est tout doux, tout féminin, c'est comme un téton, une framboise. Enfin, et quand c'est lacté, dans un yaourt, et que c'est frais, et que ça arrive comme ça sur les papilles, et qu'on laisse son corps aller, on ferme les yeux, c'est très... Voilà. Donc ça coule, c'est frais, comme ce qu'on peut ressentir à l'intérieur d'un vagin, mesdames, vous savez bien.
C'est un yaourt maison?
Non, pas maison. Ah. Ça aurait pu.
Est-ce que tu crois que la molécule de la Voie lactée est encore dans les yaourts industriels? Moi, j'ai comme un doute, mais...
Ouais. Non, c'est très psychologique. Hein.
Il y a l'attache émotionnelle du fait que tu as été séduite comme ça, j'ai cru comprendre.
Ouais, c'est ça.
Ça joue énormément.
Oui.
Ok, chouette. Est-ce que tu pourrais citer une pratique, une curiosité sexuelle que tu n'as jamais essayée, que tu aimerais tenter?
Que je n'ai jamais essayé. Il faut chercher. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Je suis sûre qu'il y en a plein. Hein. dans la glace. J'ai jamais fait ça dans la glace.
Dans
ça
la neige, tu veux dire?
Bien. La neige, si. Mais l'eau très froide, glacée, ah, les glaçons, le bain de glaçons. Parce qu'en ce moment, bah, par exemple, je porte aujourd'hui un truc qui s'appelle Sister Phil. Je sais pas si tu connais.
Non, c'est quoi?
C'est une bande de glaçons qui sont, c'est comme ce qu'on met dans la glacière un peu, ça reste glacé. Et donc les filles ont créé une espèce de serviette hygiénique dans laquelle on glisse ça en tissu. C'est dans le congèle et on le met sur soi. Et on peut le garder toute la journée tant que ça reste au frais. Et donc il se passe un truc super cool avec l'activation du froid sur le périnée qui vient faire bouger l'énergie à cet endroit-là. Et du coup c'est vrai que par exemple être dans un bain de glaçons, soit sur une sexualité solitaire, soit sur une sexualité je dirais non pénétrative, parce que bon c'est pas là où on va avoir une érection super, ça pourrait être hyper chouette avec ce côté brûlant du froid... Cette énergie que ça amène.
Ça apporte quoi comme bienfait, le froid sur le périnée?
Alors, ça permet de l'activer, parce que du coup, le problème du périnée, c'est que c'est très dur d'en avoir conscience et de l'avoir en permanence qui soit bien serré. Donc du coup, le froid, ça vient chercher ça. Et ça fait comme quand on met du froid n'importe où, ça vient titiller. Et du coup, ça fait circuler l'énergie beaucoup plus rapidement, ça augmente le rythme cardiaque, ça augmente la concentration sur le long terme.
Je sais que j'adore le froid, c'est un élément avec lequel j'adore jouer. J'ai jamais trop su pourquoi, et surtout je me sens un petit peu seule en fait, parce que j'ai pas mal de partenaires qui aiment pas forcément le froid, ou même j'ai plein de copines aussi quand j'en parle avec elles, non, moi je veux des gottes chauds, je veux des gottes bichets tout chauds, pas des trucs tout froids, et moi je suis ouais. Parce que moi, un de mes super fantasmes, ce serait d'avoir un god en verre qui reste dans le congélo.
Bon,
peut-être pas dans le congélo, mais en tout cas, vraiment froid, quoi. Genre,
ouais, c'est vraiment bien. J'ai laissé le mien dans un congélo, il faut que j'aille le chercher.
C'est vrai, mais du coup, oui, c'est marrant que tu parles de ça parce que ça me donne peut-être des éléments de réponse que inconsciemment je faisais sans vraiment comprendre pourquoi.
Il y a quelque chose qui se passe au niveau cérébral dans la confrontation au froid, en fait. Il y a les stages Wim Hof qui sont intéressants là-dessus, du yoga dans le froid. Apprendre à respirer.
Ouais, le Wim Hof, c'est la respiration.
Ouais.
C'est la respiration de l'apnée, je crois.
C'est ça.
Ouais.
Mais on se confronte au très froid. Alors bon, moi, je le fais un petit peu en allant me baigner l'hiver dans le bassin. Et c'est vrai que c'est très, très intéressant. Il se passe vraiment quelque chose au niveau des tempes. C'est du réveil, en fait. Donc, continue.
Donc, c'est mieux préconisé que le chaud.
Bon, les deux sont intéressants, mais le chaud a moins d'activation. Le chaud va venir réconforter, va venir vasculariser, mais différemment. En fait, le froid, ça permet vraiment de donner un coup de fouet. Et c'est pour ça que les gens, souvent, sont réticents. C'est un petit peu comme la thérapie ou quoi. Dès qu'on va venir bousculer les molécules, casser des choses, des schémas, des représentations, du confort... on est réticent, mais une fois qu'on le fait, on a envie de refaire. Souvent, les gens qui courent l'hiver et tout, ils ont envie d'y retourner, ils ne savent pas pourquoi, mais parce que c'est super stimulant.
Ah, c'est clair, c'est clair. La première fois, tu ne sais pas pourquoi tu es là, mais hein. Et après, en fait, c'est une drogue.
Mais
ouais. Ouais, c'est assez incroyable l'effet que ça fait. La dernière question que j'ai, c'est qui vois-tu derrière ce micro pour parler avec moi lors d'un prochain enregistrement?
Alors... plein de gens, il y a plein de gens qui ont plein de choses à dire. Je sais pas si je peux dire ça. Droite au corps, l'association de lutte contre la circoncision abusive.
Pourquoi tu penses à eux?
Parce que on parlait de tout ce qui est un petit peu original autour de la sexualité, et notamment le prépuce, qui est une partie du corps que peu de gens connaissent, que plein de gens n'ont plus, malheureusement, et qui apporte énormément à la sexualité féminine comme masculine, qui est utile dans le corps, et qui est en voie de disparition, on va dire, dans le sens où il y a quand même des maltraitances autour de cette partie génitale. Et du coup, c'est bien d'en parler, d'essayer de réfléchir ensemble à ce qui peut être fait, à pourquoi nos sociétés, à un moment donné, viennent mutiler nos enfants. Voilà. J'aimerais bien ouvrir ce débat. Je suis engagée dans cet assaut à fond.
En effet, c'est un vrai sujet. Et au plaisir d'avoir droit au corps à mon micro pour parler de ça.
Merci.
Je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre d'eux également.
Et eux aussi. Et nous aussi.
Merci Élodie. Merci pour tout.
Merci Colette.
À très bientôt. Où est-ce qu'on te retrouve?
Alors sur www.intimement-vous.fr. Sur Instagram, intimement gourmand, parce que je suis gourmande et que j'espère que vous aussi. Et sur Facebook, Élodie Vincent.
Super, bah merci pour tout les cocos, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez venir voir un peu à quoi ressemble la pierre et les petites fleurs, le land art, ça se passe sur YouTube. Si cet épisode vous a plu, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez réagir, vous pouvez désormais laisser des messages vocaux sur Spotify. Moi, ça me ferait trop plaisir de vous écouter. Je crois que ça peut aussi se faire sur mon site internet. Donc voilà, viendez tous, viendez toutes, viendez tout le monde. Bon, bref, vive l'inclusivité. Je vous embrasse très fort. C'était Colette se confesse du podcast. Colette se confesse. Et si vous voulez écouter des histoires immersives, vous pouvez découvrir celles qui sont gratuites sur mon podcast. Vous pouvez découvrir toute ma bibliothèque d'épisodes créatifs, ludiques, fun sur Patreon. Le lien, je vous le mets dans la description. Pour vous faire accompagner, ça s'appelle Better Call Coco. Vous pouvez prendre rendez-vous quand vous voulez. J'offre un appel découverte à ceux qui le souhaitent. Pour comme ça, on apprend à se connaître, on voit si ça match. Et je vous présente le programme. Et si ça match, bah, vous n'allez pas le regretter. À très, très, très bientôt. Je vous embrasse très fort.
Merci, à bientôt.
Merci.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.